L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour Lionel.
Et bonjour Maline.
Alors Lionel, tu nous as préparé aujourd'hui quelque chose sur le hêtre, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose de faire ou refaire la connaissance d'un vieil ami, d'un compère toujours présent dans le paysage et qui, si on ne prête plus assez attention à toutes ses valeurs, peut risquer de nous abandonner. Et cela serait très dommageable pour notre forêt du plateau de Mille Vaches. Donc j'ai nommé le hêtre commun ou Fagus sylvatica, en latin, famille des fagacées.
Oui, donc on le remarque bien hein, ici dans le paysage, surtout en ce moment, en automne, hein, où il revêt son manteau doré.
Ah là là, Maïline, pas plus tard que samedi, en ramant sur le lac de Sèchemaille, nous nous exclamions de bonheur et de ravissement avec mes amis de l'aviron. En effet, voir sous les rayons du soleil ces volutes dorées, aux reflets cuivrés que forment les houppiers des hêtres dans le paysage, et qui forment une palette de couleurs vives, s'étalant par pointes sur la grande toile du pays Memakwab, cela forme une image absolument splendide et dont on peut être fier ici.
C'est vrai ça, on est vraiment dans un beau territoire, beau à chaque saison, mais c'est sûr qu'à l'automne, on est vraiment gâté par ici.
Oui, et cette beauté du territoire dépend de la sauvegarde des hêtres, hein, qu'ils soient jeunes ou ancestraux. Je me souviens la première fois de ma vie que je suis arrivé ici à Memak. J'étais encore ado et avec mes parents, nous avons emprunté la route des hêtres, qui fait partie du patrimoine historique remarquable du plateau de Mille Vaches. Elle reliait Memak à Limoges d'un côté et Memak et Saint-Flour de l'autre côté. En fait, des routes bordées de hêtres sur le plateau de Mille Vaches, on en voit un peu partout, encore aujourd'hui, et il n'y avait que ça sur tout le plateau de Mille Vaches jusque dans les années 80-90. Il faut savoir que ces hêtres sont très âgés, car les premiers peuplements linéaires ont été plantés sous l'empire de Napoléon III, qui admirait fort les arbres. Hein, sous Napoléon III, ce sont environ 50 000 arbres qui ont été plantés à Paris, par exemple. Et cela dans la plus pure tradition bonapartienne. En effet, Napoléon Ier signait ses invasions en traçant des routes plantées d'arbres, l'ombrageant ainsi l'été, protégeant la chaussée du gel l'hiver et surtout alimentant en branchage les garnisons en bois de chauffage et de cuisson. Ces vieux hêtres, qu'ils soient au bord des routes ou maintenant noyés dans les peuplements forestiers, eh bien il faut les protéger, les conserver le plus longtemps possible, car ce sont des vrais monuments pour notre contrée et nous devons transmettre cela aux futures générations.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des critères botaniques de cet arbre ?
Eh bien, le hêtre est un macrophanérophyte, alors mot un peu compliqué, juste pour dire, pour signifier que c'est un grand arbre à bois et à bourgeons, poussant jusqu'à 30 à 45 mètres de haut pour des circonférences enregistrées jusqu'à 6 mètres. Selon qu'il soit en lisière ou en peuplement, le port du hêtre peut être très différent. En effet, en plaine ou mi-lumière, le hêtre développera un tronc plutôt assez court, avec un houppier en boule sur les deux tiers de sa hauteur. Le houppier peut couvrir jusqu'à 600 mètres carrés de surface au sol. Alors qu'en présence d'autres arbres, en forêt, ce sera le contraire. Il formera un fût droit élancé sur les deux tiers de sa hauteur, avec à son extrémité un houppier en V, avec des départs de branches à 60 degrés. On appelle ça un port fastigié. Son écorce reste toute sa vie bien lisse, de gris clair à gris foncé, en passant par du gris verdâtre dans certains peuplements sombres et humides. Concernant ces feuilles alternes, ovales, non dentées et ciliées sur leurs bords, j'imagine que vous connaissez l'adage pour distinguer les feuilles de hêtre des feuilles de charme assez proches, hein, Maïline ?
Oui, je me souviens, donc le charme d'Adam, hein, c'est d'être à poil, si je ne me trompe pas.
Exactement, ça veut dire que la feuille de charme a des dents sur le bord et que la feuille de hêtre a des poils. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Et puis, enfin, on peut parler des fleurs groupées par deux dans une capsule verdâtre produisant une cupule dure et épineuse contenant 3 à 4 graines, les fameuses faines. Alors à l'automne, récoltez suffisamment de faines, sortez-les de leur bogue, jetez-les sur une plaque à grillade et cuisez quelques minutes. Épluchez la deuxième peau et dégustez seule ou dans un peu de lait sucré. On peut également extraire de ces faines de l'huile très prisée pour les cosmétiques ou la cuisine. Attention cependant, un délice dont il ne faudrait pas abuser puisque qui mange faine court à la migraine, dit une maxime bretonne collectée par Roland.
Eh bien, écoute, comme la dernière fois, la confiture d'épicéa, bah, j'espère que je pourrai y goûter un jour. Hein. Peut-être que tu aurais pu nous en ramener, Lionel. Hein.
Oui.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler de son haute écologie? Dans quel endroit en particulier pousse le hêtre? Est-ce qu'il a des stations préférées?
Ah oui, bien sûr, sur la liste des recettes, la liste des recettes s'agrandit. Hein, donc, je te ramènerai des fèmes. Ça sent le festin en perspective, tout ça. Alors, les stations à hêtre. Eh bien, le hêtre, il est peu difficile quant à la nature du sol. Il affectionne des terrains calcaires ou légèrement acides. Il peut s'accommoder de sols superficiels. Ainsi, le trouve-t-on plus volontiers à flanc de coteau qu'au fond d'une cuvette argileuse. Il résiste bien au froid rigoureux en hiver, mais il est très sensible aux gelées de printemps. Les hêtraies comptent parmi les principaux types d'habitats forestiers d'Europe. Elles forment des forêts caducifoliées ainsi que des forêts mixtes de montagne, les hêtraies sapinières, où le hêtre côtoie le sapin pectiné ou éventuellement l'épicéa commun. On peut voir de très beaux peuplements mélangés avec des hêtres quadricentenaires non loin d'ici dans le Puy de Dôme à Cessa. Et il faut dire ici que le hêtre est une essence dryade, c'est-à-dire qui s'installe en fin de succession et qui sont les dryades, hein, ce sont des essences d'ombre de grande longévité et à croissance très lente. Le hêtre est souvent l'auteur du crime parfait qui asphyxie en lumière lorsqu'il dépasse les arbres qui l'ont aidé à pousser. On le retrouve spectaculairement des talus normands dans les futaies de Bretonne ou de Lyons-la-Forêt, aux forêts crayeuses de l'est de la France, en des formes exceptionnellement tortillardes, les fameux faux de Verzy. Il pousse de 0 à 1700 mètres, où il rejette parfois de souche à l'étage montagnard, alors qu'il ne rejette pratiquement jamais à l'étage collinéen.
Et son bois, alors? Moi, j'ai bien l'impression qu'on a beaucoup perdu de ses usages en France. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, ouais, tout à fait, Maëline. La sylviculture du hêtre produisait jadis des grandes futaies dont le bois était utilisé pour produire du déroulage afin de fabriquer des panneaux de contreplaqué mis en œuvre dans la fabrication de chaises et tables. Si vous regardez attentivement, toutes les chaises d'école étaient en hêtre thermoformé pour confortablement accueillir nos petites fesses. Et d'ailleurs, il y avait une très belle usine à Bugeat, BGI, Bois Galbé Industrie, qui fabriquait ça et qui récoltait donc les hêtres localement pour en faire des contreplaqués. On l'utilisait et on le réutilise aujourd'hui à nouveau aussi beaucoup pour fabriquer des plans de travail et ustensiles de cuisine, car c'est un bois au pH neutre qu'on peut mettre en contact avec des aliments. Aujourd'hui, après plusieurs décennies d'absence, on le retrouve à nouveau dans la mise en œuvre avec ses ustensiles en bois et en menuiserie, surtout à l'export. Mais le premier débouché est la fabrication de bois de calage, idéal pour des pièces lourdes ou pour une application nécessitant une forte résistance. Par exemple, support de pipeline, brame et bobine d'aciérie, stabilisateur pour chantier, stabilisateur pour les grues et traverses. On en tire également dans son houppier un très bon bois de chauffage, grâce à sa dureté et à sa densité de 700 kg par mètre cube, et de la trituration, bien sûr, pour la pâte à papier ou les panneaux de fibres. Pour donner un ordre de prix, un mètre cube de hêtre sur pied peut s'acheter entre 80 et 90 euros le mètre cube pour les bois sans défaut. Outre le fait de le valoriser au mieux dans les produits physiques, résultant de sa transformation, j'attire l'attention sur le fait que le hêtre produit surtout des bienfaits dans sa présence sur nos territoires, dans les paysages et les forêts qu'il structure, tant au niveau sylvicole qu'au niveau écosystémique, historique, voire mythologique.
Alors oui, on sait, Lionel, que tu aimes beaucoup les mythes. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs au sujet du hêtre dans la mythologie?
Eh bien, ces usages anciens semblent plus tenir de la croyance et de la magie que juste de la thérapie. Les baguettes divinatoires et son bois capable de paralyser les serpents en sont l'illustration parfaite. L'arbre lui-même a été divinisé par les Celtes sous le nom de Fagus ou Phagos, dieu des bébés et du culte des enfants. Fagus, prié pour la protection de la naissance d'un enfant, est en proie aujourd'hui sur nos territoires à un paradoxe total. Il meurt, car il est fortement affaibli par les sécheresses annuelles de plus en plus longues et répétitives. On le voit bien, hein, les hêtres sont de plus en plus sénescents, et à ce phénomène de mort en cours et de migration séculaire à venir vers le nord-est, les forestiers et plus généralement les propriétaires de hêtres ne doivent pas céder à la crainte de les voir mourir et donc à les couper prématurément. Cela engendrerait la fameuse autoprophétie conclue dans le rapport de la dernière commission parlementaire qui s'était réunie à Meymac l'hiver dernier. Le hêtre disparaîtrait donc plus sous les tronçonneuses hâtives qu'à cause du changement climatique. affaire à suivre et à surveiller de près avec sa vraie baguette divinatoire en bon vieux être.
C'est marrant cet accessoire.
Ouais.
Tu en as une de baguette en être?
Bah écoute, ouais, je vais me la fabriquer de ce pas.
Alors tu nous quittes comme d'habitude en musique, qu'est-ce que tu nous as sélectionné aujourd'hui?
Voilà, bah écoute, j'ai sélectionné un peu pour faire le lien avec la mythologie, un son d'un groupe que j'aime bien, c'est Wild in the Woods de Dead Can Dance.
Alors Lionel, aujourd'hui, avant de nous quitter, tu vas nous annoncer quelque chose?
Oui, tout à fait, le micro. Bah voilà, avec plaisir donc de pouvoir proposer après l'invitation donc de la Microfolie, d'Anne-Laure Heuss qui m'a gentiment convié à proposer une conférence sur l'histoire de l'arbre et notamment l'histoire de l'arbre dans l'art. Voilà, étant amateur d'art, j'aime bien tout ce qui permet de s'évader surtout au niveau spirituel. Proposer bien justement ce petit programme avec quelques œuvres que je détaillerai et avec lesquels je ferai le lien entre eh bien la représentation de l'arbre en tant qu'œuvre par l'artiste et également des sujets liés plus à l'importance de l'arbre dans notre civilisation. Voilà.
Et donc, pareil, hein, vous ne serez pas dépaysés puisque c'est également au Clos del Pays à Meymac, hein, juste au-dessus de nous.
Tout à fait, c'est le 30 novembre à 18h30 hein, au Clos del Pays.
Et Radio Massivière est partenaire de cette conférence.
Voilà, avec l'école forestière de Meymac et également la ville de Meymac. Voilà.
Bah écoute, on a hâte. À bientôt Lionel.
Merci Maëline, à bientôt.
Vous écoutez La Midinale sur Radio Massivière. En direct de Meymac.
Et on écoute tout de suite l'agenda de la montagne limousine. Programme ce mardi 21 novembre à Moutier-d'Ain, La Métive vous invite à son ciné-club avec la projection du court-métrage Rapide de Paul Rigou. C'est à partir de 19h et c'est sur entrée libre ce mardi. Au programme, ce mercredi 22 novembre, à Saint-Sétier, à l'Arboretum, l'association 1 million d'arbres plantera des arbres pour les générations futures. Si vous aussi, vous voulez participer à cette plantation, eh bien rendez-vous à 9h ce mercredi 22 novembre à l'Arboretum et ou à 10h30 aux arbres redressés. N'oubliez pas vos pioches, vos plantoirs et bien sûr votre bonne humeur. Et toujours ce mercredi 22 novembre à Limoges, à l'espace associatif Gilbert Roux, Philippe Collin, maître de conférence en civilisation de l'Amérique latine à l'Université de Limoges, vous proposera une conférence débat sur la pensée décoloniale. C'est ce mercredi 22 novembre à partir de 20h30 et c'est ouvert à tous. Rendez-vous à l'espace associatif Gilbert Roux. Vendredi 24 novembre à Faux-la-Montagne, rendez-vous à la salle polyvalente pour le bal des monstres. Ça commence à 19h avec boissons et restauration sur place et la soirée se poursuit avec 3 concerts à partir de 20h30. Au programme, les groupes Neige Percée, La Bonne Humeur ou encore Zoastre, c'est à la salle polyvalente de Faux-la-Montagne ce vendredi à partir de 19h.